les podcasts de Radio Vatican.
Qui dirige vraiment la politique étrangère américaine? Dimanche dernier, le 1er octobre 2017, le président Donald Trump a publiquement humilié son secrétaire d'État Rex Tillerson, lui demandant de ne pas perdre son temps à négocier avec la Corée du Nord. Ce n'est pas une première, les deux hommes ont déjà étalé leurs divergences sur les dossiers qataris, iraniens ou encore sur celui de l'OTAN. D'après les médias américains, Rex Tillerson aurait même été à deux doigts de démissionner cet été. Ce mardi, c'est le secrétaire américain à la Défense qui a pris position dans cette polémique. Jim Mattis a apporté son soutien total aux efforts de Rex Tillerson pour trouver une solution diplomatique en Corée. Julien Toureille est chercheur à la chaire Raoul Dandurand de l'Université du Québec à Montréal. Il revient sur les relations entre Donald Trump et ses principaux conseillers.
C'est des gens, bon, surtout pour Mattis, qui sont quand même très compétents, qui ont l'habitude des dossiers, qui ont l'habitude de gérer des équipes importantes. Peut-être aussi, dans le cadre de Tillerson, par rapport, par exemple, à Donald Trump, est beaucoup plus ouvert aux conseils, aux recommandations que lui présente le département d'État et essaie, alors ça c'est traditionnel dans toute administration, de faire valoir le point de vue de son département dans les délibérations à la Maison-Blanche. On voit que c'est très difficile pour Tillerson, et cela étant, ce n'est pas spécifique à Donald Trump. Hein. Les secrétaires d'État, depuis au moins 1947, se retrouvent de plus en plus marginalisés dans le processus de politique étrangère, et là, cette marginalisation, elle est quasiment caricaturale. On le voit, ils peuvent être contredits dans les minutes ou bon, les heures qui suivent, et ça, ça mine quand même la crédibilité des États-Unis sur la scène internationale, parce que tous les interlocuteurs maintenant vont vraiment avoir des doutes sur la pertinence du propos ou des échanges qu'ils ont avec n'importe lequel des représentants de l'administration. Ils peuvent même avoir des doutes sur la pertinence et la véracité des propos qu'ils échangent avec le président lui-même, puisqu'on sait qu'il peut changer d'avis finalement de façon très très soudaine selon son humeur.
Comment ces dissensions se répercutent-elles sur l'ensemble de l'appareil diplomatique?
On sait que Donald Trump n'accorde pas une grande importance à la diplomatie en général, et donc il n'a pas une vision très positive du département d'État. Alors évidemment, lui, il pousse ça très très loin. Lorsqu'il avait, dans son projet de budget, émis l'idée de couper de 30%, si ma mémoire est bonne, le budget du département d'État. Alors cette volonté-là, elle a été contrecarrée par le Congrès, qui estime quand même que la diplomatie est un outil important en politique étrangère et qui a rehaussé le niveau budgétaire. Mais c'est vrai que Tillerson, n'ayant pas l'assise politique, par exemple, d'un Mattis, a peut-être plus de mal et à convaincre le président Trump et les membres du Congrès qui seraient les plus enclins, là aussi, à réduire les moyens du département d'État, parce qu'on le voit comme trop élitiste, conservateur, dans le sens où on ne veut pas trop changer la politique étrangère. Il a un petit peu plus de mal, mais aussi, au-delà de l'aspect budgétaire, et Mattis l'avait vécu, c'est qu'il n'a pas les coups des franges pour choisir les hauts fonctionnaires qui l'entoure, et on constate que la Maison-Blanche, notamment lorsque Steve Bannon était encore présent, était très active et essayait d'imposer à tout le moins ses choix dans l'entourage des deux secrétaires. Et ça, encore une fois, ça les fragilise parce que ça ne leur donne pas le contrôle sur l'administration à la tête de laquelle ils sont placés.
Face à cette attitude de Donald Trump, quelles cartes peuvent jouer Jim Mattis et Rex Tillerson?
Ils peuvent faire jouer leur position. C'est-à-dire qu'ils ont quand même un certain prestige alors de par leur passé. Et l'un des outils qu'ils ont, qui est quand même très fort, c'est la parole publique qu'ils peuvent prendre. On le voit très bien avec Mattis, et ce n'est pas un hasard, ce n'est pas innocent si devant la commission des forces armées du Sénat, il a exprimé son soutien et à son collègue Tillerson et à l'accord sur le nucléaire iranien, parce qu'il sait qu'en s'exprimant publiquement, il va imposer finalement une contrainte à Donald Trump et par conséquent, le président lui-même se retrouve limité dans la marge d'action qu'il a en politique étrangère. Et ensuite, le dernier élément qui montre qu'ils ont une influence, c'est en gérant leurs départements respectifs et en donnant des consignes qui peuvent être pas totalement et ouvertement opposées à celles du président, mais qui peuvent atténuer les propos présidentiels. Ils ont quand même pas mal de moyens à leur disposition. Alors il faut par contre qu'ils acceptent, et ça ne doit pas être toujours évident, de se faire un petit peu taper sur les doigts par le président, voire même complètement rabrouer ou ridiculiser, comme on l'a vu avec Rex Tillerson. D'ailleurs, pas mal d'observateurs aux États-Unis, notamment le patron du Council on Foreign Relations, suggéré ou conseillé à Rex Tillerson, après cet épisode du week-end, de carrément remettre sa démission pour montrer son mécontentement. Et d'ailleurs, ça pourrait être un dernier outil. Hein.
Jim Mattis et ce que l'on appelle plus généralement le clan des généraux du gouvernement peuvent-ils profiter de l'affaiblissement d'autres groupes influents, celui autour de Steve Bannon, démissionnaire il y a peu, ou encore le clan familial de Donald Trump avec son gendre?
Alors ça tend aujourd'hui à peut-être se normaliser le groupe des généraux, alors un petit peu plus classique dans le sens d'une politique étrangère républicaine qui met quand même de l'avant la souveraineté américaine, les intérêts nationaux américains représentés donc par ces fameux généraux, semble avoir pris le dessus. Alors le clan familial, bon, même s'il a un accès au président avec Jared Kushner, lui me paraît pas si influent que ça parce que Jared Kushner n'a pas des moyens extraordinaires à sa disposition. Donc ces querelles d'influence au sein de l'administration tendent à mon avis à s'atténuer un petit peu. Alors peut-être que l'effet bénéfique, ça sera d'avoir une politique étrangère un petit peu plus prévisible et ordonnée. Et là, évidemment, ça dépend de l'écoute qu'a Donald Trump. Et le nœud du problème, il est là, c'est que Donald Trump est quand même réputé, même lorsqu'il était à la tête de son organisation immobilière, comme quelqu'un qui n'écoute pas.
On parle également beaucoup d'une autre personnalité qui n'est pas directement liée au gouvernement, mais dont la voix porte sur les questions internationales. L'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley, pourrait-elle remplacer Rex Tillerson, comme on le murmure?
Oui, ça me paraît tout à fait possible. Et alors elle, c'est vrai qu'elle peut constituer un clan à elle toute seule, tant elle a réussi, et peut-être un peu à la surprise générale, à s'imposer comme un joueur important, à mi-chemin finalement entre le caractère plus modéré du clan des généraux, plus prévisible, et finalement la vision très souverainiste d'Amérique en premier de Donald Trump. Hein. On sait par exemple que sur le dossier du nucléaire iranien, elle est assez en adéquation finalement avec Donald Trump, dans le sens où elle veut mettre une pression très forte, s'assurer que Téhéran remplisse ses obligations. Bon voilà, elle joue un jeu intéressant, elle est à suivre. Alors de là à voir quelle est son influence réelle au sein de la Maison-Blanche, personnellement j'ai du mal à l'évaluer. Je pense qu'elle est un peu moins influente que quelqu'un comme Jim Mattis, mais au moins sur la scène internationale, elle s'impose comme une voix importante des États-Unis. Là aussi, est-ce que le président la suit à tous les coups? C'est un petit peu plus dur à évaluer.
Un entretien réalisé par Samuel Blény.